Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier Instant M de la semaine.
Vous coupez ?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
Mon invité fut milieu de terrain à l'AS Roma, l'Inter de Milan, à Leeds en Angleterre, 21 sélections en équipe de France. Le foot, il a arrêté il y a 8 ans, sur le terrain du moins. Aujourd'hui, c'est avec une caméra qu'il en laboure les pelouses, mais aussi les gradins, les vestiaires et les instances dirigeantes. Tout ce qui structure un sport dont les us, les coutumes et l'image ont des répercussions au niveau mondial. La semaine dernière, les regards se sont tournés vers les supporters italiens, l'ultra-droite et le racisme virulent. Hurler à la face d'un joueur noir. Je ne suis pas un singe sera diffusé dimanche soir sur Canal+, un documentaire qui tombe à pic et dans lequel Mario Balotelli, ex-star de Manchester, Pape Diouf à Marseille, Joseph Antoine Bell, qui fut gardien bordelais, Samuel Eto'o, étoile du FC Barcelone, raconte les insultes face caméra.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Olivier Dacour.
Bonjour.
Alors, je le dis parce qu'on est à la radio. Vous êtes noir. On peut pas le savoir quand on nous écoute. Ou alors on nous regarde sur franceinter.fr.
Non, j'ai pas d'accent en plus.
Non.
Je suis né à Montreuil.
Voilà. Et alors, je vais faire hurler les auditeurs, mais évidemment, ils vont comprendre quand ils vont entendre votre interview. Vous êtes comme beaucoup de noirs qui se plaignent du racisme. Au lieu de passer vos diplômes d'entraîneur, vous restez assis dans un fauteuil à faire un métier de fainéant. Journaliste avec une caméra pour la télévision. Voilà, je vous le dis, c'est pas la peine de vous jeter sur le CSA, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On y vient dans un instant avec Olivier Dacour. Actu d'abord. Parmi les bonnes nouvelles, vos journaux en kiosque sont encore un peu plus chers que l'année dernière. Plus 20 centimes pour Le Monde qui passe à 2,80€ et 4,50€ pour son édition du week-end avec le M Magazine. Idem pour les Échos. Plus 20 centimes à 2,80€ et 5 le samedi. L'Équipe augmente de 10 centimes. Olivier, vous continuez de lire l'Équipe ?
Oui. Ça m'arrive.
Ça vous arrive. Voilà. Et 10 centimes. Donc ça fait 1,70€ en kiosque et 2,70€ le week-end. L'Humanité atteint les 2,20€ et 3,50€ le dimanche. Évidemment, les journaux privilégient le numérique, dont les tarifs, eux, ne changent pas. Mais ils sont en train de tuer les kiosques, les marchands de journaux, en faisant ça, et avec eux, tout le système de distribution de la presse qui s'écroule en France. 2019, on reprend donc nos très vieilles habitudes avec la Madeleine du vendredi. Ce matin, je vous offre un très beau bouquin, ça s'appelle L'annuel de l'AFP. C'est un album qui est publié en chaque fin d'année par l'agence de presse avec les meilleures photos de l'année. Il vous faut pour cela être le premier à m'envoyer un mail à l'instantm@radiofrance.com. Voici ma question. Qui est ce commentateur sportif dont la voix accompagne ici un match de foot? Olivier Dacour, vous n'avez pas le droit de jouer, hein. C'est réservé aux auditeurs.
Je ne dirai rien.
Allez-y.
Vamos Messi, maestro ça! Voilà! Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. C'est lui-là qu'on croit qu'il faut qu'il intervienne. Le vrai crack, le seul. Il a, je suis obligé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Il est comme ça dans la vie, il est vraiment comme ça dans la vie.
Donc Olivier Dacour l'a reconnu, mais on ne vous dit rien, vous pouvez jouer l'instantm@radiofrance.com. Bonne chance à vous tous, c'est quand même vraiment génial cette archive.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Ce credo d'extrême droite, ils le portent dans le stade. Après, tu as beaucoup de personnes qui s'agrègent à ce mouvement juste parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font, juste pour suivre le mouvement. Moi, je n'ai pas suivi comme un mouton. J'ai étudié, je me suis renseigné sur l'histoire avant de me définir fasciste. Et j'en suis fier d'être fasciste.
Parole d'un supporter de Vérone, dont le torse est tatoué à l'effigie de Mussolini. Vous le verrez dimanche soir sur Canal+, dans Je ne suis pas un singe, le film d'Olivier Dacour, donc je l'ai dit, footballeur professionnel.
Et de Marc Sauvourel.
Voilà, on l'a cité, devenu documentariste. Donc, je rappelle que vous avez joué en Italie, Olivier. Je rappelle que vous êtes noir. Est-ce que vous les avez connues, ces insultes?
Ce qui est étrange, c'est que moi, je ne l'ai pas vécu.
Pas vécu.
Donc je sais pas, je l'ai vu à travers les médias, mais moi je l'ai pas vécu personnellement, ouais. Donc je sais pas
et
ce
pourtant,
que ça fait.
Et pourtant, vous commencez votre film en Italie. Je rappelle que ce film, vous êtes au travail depuis un an.
Ça donc, fait un, ça ouais, fait un ça. An qu'on travaille sur le documentaire. Et là, tout le monde nous dit, ah, comme par hasard, il y a l'histoire Koulibaly, ça tombe bien. Mm. Sauf qu'on a commencé il y a un an, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard.
C'est ça.
C'est bien dit pour un footballeur, non?
C'est très bien dit pour un footballeur. Mais il y a plein de footballeurs qui parlent très très bien dans votre film, notamment Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto'o, qui sont d'une grande finesse dans leurs témoignages. Donc l'Italie qui a fait les gros titres la semaine dernière, un supporter tué dans des rixes entre tifosi d'ultra-droite et un joueur de Naples. Vous venez de le citer, sifflé par le public de l'Inter. Cette Italie qui se revendique blanche et qui hurle face à des joueurs d'origine africaine, vous l'avez vu dans les stades, sans l'avoir forcément subi vous-même, Olivier Dacourt?
Je l'ai vu, mais j'ai pas prêté attention parce que j'étais concentré. Donc, ouais. Donc je l'ai vu, je me souviens de Zorro qui jouait à Messina, il me semble, il y a quelques années. Mais on pense que c'est en Italie. Mais c'est partout, c'est en Europe. Mmh. Faut pas simplement se focaliser. Il y a l'histoire Koulibaly. Mais rappelons qu'en début de saison, il y a un supporter lyonnais, lors d'un match de Ligue des Champions, qui a fait un geste nazi. Et il a été condamné parce qu'il y a des caméras en Angleterre. Ouais. Et on l'a récupéré. Et ce supporter était français.
Mario Balotelli vous raconte, il joue à Nice aujourd'hui, Mario Balotelli vous raconte ses tout débuts à l'époque de l'Inter. Il était tout jeune joueur, vous l'avez vu arriver à l'Inter de Milan, on l'écoute.
Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à recevoir mes premières insultes, oui.
C'est-à-dire ?
Il m'arrivait de me disputer avec quelqu'un sur le terrain du quartier et je commençais à entendre mes premiers « Ah, le nègre, tu es différent, retourne dans ton pays », ce genre de choses. Le pire épisode, c'était à 17 ans, quand je suis passé professionnel à l'Inter et qu'on a joué contre la Juventus. Tout le stade s'est mis à faire « ouh, ouh, ouh ». Sincèrement, c'est le pire moment de ma vie.
Olivier Dacourt, c'est pas si facile que ça pour ces joueurs d'en parler, et d'en parler face caméra. D'ailleurs, Mario Balotelli, il vous le dit, moi j'ai pas envie de passer pour un martyr, quoi.
Faut savoir, l'histoire de Mario Balotelli, c'est qu'il est né en Italie, il est italien. Il connaît pas l'Afrique, donc pour lui, il est italien. Et pour un joueur de couleur, vivre en Italie, vivre dans le nord de l'Italie, c'était pas facile tous les jours, parce que je crois que dans la ville, ils étaient deux noirs. Dans toute une ville. Nous, on peut pas s'en rendre compte, puisque à Paris, c'est assez cosmopolite.
Ouais. Ouais, évidemment. D'ailleurs, Samuel Eto'o, qui a joué longtemps en Espagne, au Barça, vous dit quelque chose de très très intéressant. Lui, il dit, il y a des matchs dans lesquels il a été hué. D'ailleurs, il a fait une sortie de terrain qui est restée dans les annales. Lui, il dit, c'est la foi trop, c'est le cri de singe de trop. Samuel Eto'o, il vous dit, pendant le même match, sur le même terrain, dans le même stade, les Noirs brésiliens n'étaient pas hués. Ce qu'on huait à travers moi, c'était l'Afrique. C'était les origines africaines.
Mais parce que lui, il le ressent comme ça.
Oui.
Moi, je peux pas imaginer ce qu'il ressent. D'où l'intérêt du documentaire. C'est que l'année dernière, on a sorti à la même époque Ma part d'ombre.
Oui.
Et le même
qui est votre précédent film.
C'était le précédent documentaire. Mmh. Et le même jour, il y a Blaise Matuidi qui joue avec la Juve à Cagliari.
Oui.
Qui a été insulté de cri de singe. Et en fait, ça faisait écho à ce que nous avait dit Zlatan Ibrahimovic.
Mmh. Dans le
film. Lui avait subi le racisme, on peut pas imaginer.
Zlatan Ibrahimovic, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un géant blanc de 2 mètres, très costaud.
Et lui disait qu'en Suède, il avait, parce qu'il s'appelait pas Svensson ou Eriksson, il s'appelait Zlatan Ibrahimovic, mm-hmm. un homme musulman, et il avait ressenti comme ça, il avait vécu comme ça, donc ça faisait un petit peu écho, et on a voulu se pencher sur le problème.
Problème et sur son histoire, parce que il y a aussi un regard historique qui est très très intéressant dans votre film. Pendant très longtemps, les clubs ont laissé faire. Il y a deux témoignages d'anciens joueurs qui sont glaçants. Joseph Antoine Bell, qui arrive à Marseille à la fin des années 80. Et lui, il dit, il était gardien de but.
C'est le premier.
Le premier noir.
Premier gardien noir.
Et lui, il dit, j'étais une bête
division.
Curieuse. Parce que, à l'époque, on imaginait bien un noir attaquant, c'est-à-dire un noir qui court, mais un noir qui se concentre et qui maîtrise des gestes techniques.
parce qu'on n'avait pas l'habitude. Le problème, c'est souvent un problème d'ignorance, de méconnaissance. Si on n'a jamais vu de gardien noir, on a déjà des idées préconçues. Si c'est pas arrivé avant, pourquoi? Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient pas bons.
Et alors Joseph-Antoine Bell, il dit « Tant que j'étais à l'OM, j'étais pas noir. Le jour où je suis passé au Girondins de Bordeaux, là je suis devenu un singe. » Et donc, vous vous ressortez des images d'archives, hein, des extraits de JT d'Actu.
Mais parce que ça vient de moi, mon enfance, bah, j'ai 8-9 ans.
À cette époque-là?
Les premières images que je vois, c'est Joseph-Antoine Bell qui reçoit des bananes. Et quand on est petit, ça choque.
Vous vous souvenez de ça? Vous étiez devant la télé?
Ouais, je me souviens parce que ma première réaction, c'est pourquoi on lui lance des bananes? Et en fait, on s'aperçoit que pratiquement 35 ans après, il y a eu Dani Alves qui a reçu des bananes il y a 2 ans. Quand il jouait au FC Barcelone, ça avait fait beaucoup de... On en avait parlé parce qu'il avait mangé la banane. C'est-à-dire qu'en 35 ans, on s'aperçoit que rien n'a changé.
Mais là, vous ressortez une archive de Bernard Tapie, patron de l'OM, interviewé par Colombani à l'heure de vérité, qui dit « mais ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau ». On avait retrouvé des dizaines de kilos de bananes cachées sous les sièges des gradins avant un match OM-Girondins de Bordeaux. Donc aujourd'hui, c'est évident, c'était fait avec la complicité club.
C'est vous qui le dites, moi je retrouve simplement... Moi je retrouve des archives.
Ouais.
Mais vous savez comme moi, vous allez vous taper Alina, et on vous donne, vous tapez
racisme, singe,
on retrouve pas mal de choses.
Deux choses Alina. Hein. Paul Canouville, premier noir à Chelsea au début des années 80.
Son histoire, elle est
déchirante. Hein.
Elle est déchirante, ouais. Ouais. Et je crois qu'il en a souffert pendant de nombreuses années.
Mais de toute façon, il continue d'aimer ce club. Il s'est fait virer de ce club.
Mais je comprends pas, en toute honnêteté, moi, je comprends pas. Je comprends pas.
Qui continue d'aimer Chelsea?
Non, moi, je comprends
pas.
Qu'il soit pas parti de Chelsea. Après ça, après ce qui lui est arrivé, il est resté 3 ans.
Les supporters de Chelsea le traitent de nègre. Le club ne fait rien. D'ailleurs, il dit à cette époque-là, les clubs ne savaient pas quoi faire. Enfin, manifestement, ils savent toujours pas quoi faire. Et lui, il se fait virer 5 ans après parce qu'il a collé un pain à un coéquipier qui lui dit shut up nigger. C'est-à-dire, tais-toi, sale nègre. Jamais il a eu un mot d'excuse, rien. C'est lui qui s'est fait virer du club.
Parce que c'est une autre époque. J'ai envie de dire, on n'est pas le fils de son père, mais le fils de son époque. Donc avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus possible.
Alors, il y a des conversations extrêmement intéressantes que vous avez avec Samuel Eto'o, avec Patrick Vieira, champion du monde 98, qui est devenu entraîneur et qui vous le dit sans hésiter. Pour eux, il y a une solution. C'est sortir du terrain. C'est « je sors du terrain si je me suis fait insulter », que tous les joueurs noirs sortent du terrain en signe de solidarité. Solution qui ne fait pas l'unanimité. On écoute ce que vous en dit Samuel Eto'o.
Déjà, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre certains à cette époque qui avaient une certaine carrière. Pour qu'ensemble, on essaye un peu...
Commencer à fédérer.
Mais vous trouvez toujours ce petit nègre de maison qui vient vous faire la morale. C'était pas quand même exagéré. Juste parce qu'il veut plaire aux autres.
Super fort, le petit nègre de maison.
C'est très fort.
Ouf.
Mais quand on parle de racisme, c'est un vrai problème. C'est un souci parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas parler, qui ont peur. Parce qu'on va préférer dire le mot discrimination que racisme. Donc les joueurs, ils ont toujours un petit peu peur de s'exprimer et je remercie mais profondément un joueur comme Samuel Umtiti qui est champion du monde, qui joue dans le meilleur club du monde et qui prend des risques. Parce qu'en général, le footballeur, il essaie de pas faire de vagues.
C'est ça.
Et il peut ternir son image avec une histoire
comme
ça. Parce
que toute la question, c'est pourquoi on n'arrête pas ces matchs où on jette des bananes, où on crie des hou hou hou.
Mais vous savez pourquoi on en a parlé.
Alors qu'on peut arrêter des matchs 15 fois pour l'arbitrage vidéo, mais pour ça, on peut pas les arrêter. C'est ça toute la question. D'ailleurs, vous remontez jusqu'à la FIFA. Et à la FIFA, il y a une interview assez surréaliste où en réalité, la FIFA, qui est la fédération internationale, se défausse sur les clubs et se défausse sur les fédérations nationales en disant « eux, ils connaissent leurs supporters ». C'est ça.
Mais pourquoi il y a eu énormément de débats autour de Koulibaly? C'est que Carlo Ancelotti, qui est une figure emblématique du football italien, a dit que la prochaine fois qu'un de ses joueurs subissait des cris de singe, il sortirait toute l'équipe du terrain. Donc à partir du moment où un entraîneur prend position et dit que maintenant ça suffit, ça a pris ses proportions et la fédération italienne, ils ont été obligés de prendre des sanctions tout de suite. Mais si
il était temps. Il était temps.
Ouais.
Il était temps parce que vous pointez quand même le déni des institutions d'ailleurs. Vous posez, c'est toute la dernière partie de votre travail, vous posez la question de l'encadrement, de l'arbitrage, des hiérarchies. Pourquoi il y a autant d'excellents joueurs noirs, souvent capitaines d'équipe, qu'on ne retrouve pas ensuite dans les hiérarchies du football français et européen.
J'ai envie de dire que c'est le reflet de la société, c'est à l'image de la société. Dites-moi. Moi, je revendique.
Vous voulez qu'on cherche un patron du CAC 40 noir, c'est ça?
Ben non, je revendique rien, mais moi je demande si je donne la parole à tout le monde.
Oui.
C'est-à-dire que dans le documentaire, le moment le plus difficile du documentaire, c'est quand moi je vais voir un supporter qui est fasciste.
Oui.
Et ça, c'est le j'en dors pas parce que.
D'ailleurs, vous lui dites, hein, ça vous ennuie pas de me parler parce que moi je suis noir et. Il a un petit temps à vous
répondre.
Ça dure
10 secondes, mais 10 secondes qui durent en vérité une heure dans ma tête.
C'est ça, hein.
Donc
finalement,
c'est assez long.
Non. Finalement, il accepte de vous parler. Il y a un autre moment difficile, c'est quand vous vous adressez à Noël Le Graët, président de la Fédération française, qui est très susceptible sur ces questions, qui trouve votre reportage un peu bizarre, c'est son mot, un peu bizarre. On l'écoute, Noël Le Graët.
Vous m'avez parlé de Bernard Diomède.
Oui.
On parle de Thierry Henry, on parle de Patrick Vieira.
Oui.
Bah, soit ils sont champions du monde, champions d'Europe.
Mais vous avez l'air de dire, il n'y a que les champions du monde qui passent leur diplôme.
Non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis simplement qu'il y a que des champions du monde qui sont en activité.
Je regrette en plus que beaucoup de joueurs de haut niveau, blancs ou blacks, ne passent pas leur diplôme. Ils vont sur des métiers plus faciles. Pourquoi des joueurs de première division, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, vont plutôt soit travailler à la télé ou bien évitent les stades? Vous avez un métier adorable.
Non, moi, j'essaie. Adorable. Moi, en tout cas, je me pose des questions et je regarde.
Bosser dans un fauteuil, c'est quand même peinard, ça n'a rien à voir.
Je fais pas que ça. Je fais pas que ça.
Et voilà le président de la Fédé. Hein, quand je disais que vous êtes un peu fainéant et que vous faites un métier facile, vous avez choisi la télévision, Olivier Dacour, au lieu de passer vos diplômes d'entraîneur. C'est toute la question que pose ce film. Où sont les entraîneurs?
J'ai passé mon diplôme de manager général pour l'information, qui est équivalent d'une maîtrise de droit d'économie du sport.
Félicitations. C'est donc toute la question que vous posez à la fin du film. Où sont les entraîneurs noirs? Vous pointez donc ceux qui sont anciens champions du monde 98, dont Patrick Vieira qui est aujourd'hui à Nice. On parle aussi de Jean Tigana qui a été quand même un pionnier, un précurseur. Il faisait partie du carré magique à l'époque de Platini, j'irais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà, la question c'est où sont les autres?
Nous, on a essayé de faire un constat, un état des lieux. C'est juste, on regarde, on donne la parole à tout le monde. Donc souvent, dans le football, on dit la grande famille du football, c'est les dirigeants, c'est les joueurs, c'est les supporters. Mmh. Donc on est allé voir tout le monde. Et on a posé des questions.
Mais sachant que les entraîneurs noirs, on les voit par exemple, noirs, arabes, tous les entraîneurs possibles à l'image de la population française, on les voit sur les terrains amateurs. Mmh. On les voit plus dans le football professionnel.
Donc c'était la question, c'est pour ça que nous sommes allés voir Noël Le Graët. Et pour information, il a accepté.
Oui c'est vrai, il a accepté
donc,
de parler.
Après on n'aime pas ce qu'il dit, mais il y a des gens qui ont refusé de parler dans le doc. Il y a des entraîneurs, il y a des joueurs qui ont refusé de s'exprimer sur le racisme. Donc, lui, il a parlé. Donc,
Joseph-Antoine Bell, que vous allez rencontrer au Cameroun, qui est donc ce gardien dont on parlait dans les années 80, qui est un homme brillant, extrêmement fin. Vous le filmez dans sa maison, où il s'accroule sous les livres. Enfin, c'est vraiment un beau personnage dans le film. Lui, il raconte un truc très émouvant. Lui dit, j'étais en train de passer mes diplômes d'entraîneur à Clairefontaine, avec Giresse et toute la bande. Il y avait Aimé Jacquet sur le bord du terrain. Aimé Jacquet m'a vu à l'œuvre et il a dit le Cameroun a trouvé son sélectionneur et lui ça lui a mais fendu le cœur. Signification, il y a du boulot là-bas, il y en a pas pour toi ici.
Mais c'est ce que lui a ressenti.
Ouais.
Donc c'était il y a plus de 25 ans et il a gardé quand même ce sentiment.
Complètement. Et lui il dit surtout ce qui est incroyable c'est que au Cameroun on préférera toujours un blanc pour entraîner une équipe.
C'est la perception que qu'il a du Cameroun et qu'il a de la France.
Ouais. Et alors, ils sont où dans cette histoire? Les sponsors, les patrons de chaînes de télé? Parce que Samuel Eto'o a raison. Si les joueurs noirs sortent d'un terrain, il y a un moment, tout ça derrière, il y a des enjeux d'argent phénoménaux, quoi.
Mais peut-être que l'enjeu prend le pas sur le jeu.
C'est ça. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier.
Alors en fait, on voit que à la radio, non, il y a la mixité. Hein. Mais parce que.
C'est trop bien à la radio.
Parce qu'on ne voit pas que je suis noir à la radio. Ça, c'est un avantage.
Ah, c'est.
pas la couleur, la voix, non, pas du tout, ça passe bien. Hein. Bravo France Inter.
Merci Olivier Dacour. Je ne suis pas un singe. Et diffusé dimanche soir sur Canal+. Bravo à Mathieu qui a reconnu, comment il s'appelait le commentateur?
Omar Lafonseca.
Omar Lafonseca sur Beansport. Et merci à toute mon équipe, Ali Rebéi.
Ce matin, quelques bons livres qui font du bien pour débuter l'année. Des ouvrages de psychologie, de philosophie, de développement personnel, des essais, des livres de recettes, des dictionnaires.
C'est la hotte du Père Noël qui continue
de déborder. Appelez-nous 01 45 24 7000 pour partager également vos choix de livres pour bien commencer l'année.